des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Sey, encore une fois pour vous présenter cette émission qui ne se consacre qu'au livre audio. Tiens, le livre audio. On sait que le livre audio gagne du terrain, qu'il est beaucoup plus populaire qu'il y a même 10 ans, que ce soit au Québec ou partout ailleurs. Il n'en reste pas moins qu'il y a du travail encore à faire. Le livre audio reste encore dans l'esprit de beaucoup, le livre idéal et accessible pour les personnes qui présentent des difficultés de lecture. Et c'est vrai que la mission première du livre audio était et est toujours de satisfaire une clientèle oubliée par le livre imprimé. D'ailleurs, nous en savons quelque chose chez Vues et Voix, anciennement la Magnétothèque, faut-il le rappeler. Mais il y a encore énormément de personnes qui se privent du plaisir d'écouter un bouquin. Je sais pas moi, en faisant du jardinage, de la peinture, de la cuisine, un voyage ou que sais-je encore. Et c'est un peu normal, nous avons tellement l'habitude que ce plaisir littéraire passe par les yeux. Et pourtant, nous sommes tous d'accord pour dire qu'un enfant à qui on ne raconte pas d'histoire est un enfant à qui il va manquer quelque chose d'essentiel. Or, bien sûr, on n'est plus des enfants. Mais l'enfant, le tout petit que nous avons été, lui, il est encore en nous et il a le droit de réclamer encore qu'on lui raconte des histoires. Que ce soit des romans, des essais, des séries, peu importe le sujet, mais pourvu qu'une voix l'emporte ailleurs. Alors il y a encore, semble-t-il, des habitudes à prendre, des mécanismes à mettre en place, comme par exemple d'aller fouiller sur le net pour découvrir les plateformes de livres audio, pour voir ce qui existe, ce qui vient de sortir, ce qui va paraître en audio. Moi, j'ai reçu, il y a quelques jours, comme la plupart d'entre vous, la publication spéciale de Noël d'une grande chaîne de librairies québécoises, que je ne nommerai pas. J'ai été un petit peu surprise, voire déçue, de constater que le livre audio n'y figure même pas. Il n'y a rien, il n'y a pas un encart sur le livre audio. Et pourtant, toutes ces nouveautés qui vont se vendre comme des petits pains chauds, qui sont signés Pauline Marois, Kim Thuy, Daniel Henkel et tant d'autres, ils existent en audio. Ces gens-là sont venus ici pour les enregistrer. Rien. Alors, comme je vous le disais, on est encore loin de considérer le livre audio comme un support littéraire accessible à tous, et je dis bien à tous. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, en première partie de cette émission, il ne s'agira pas de Vues et Voix, mais d'une plateforme de diffusion de livres audio pas comme les autres. Elle est française, mais donc elle est internationale, parce que merci le net. Et j'ai eu envie de vous la faire connaître, d'abord parce que j'aime son nom, j'aime sa façon de procéder, j'aime la clarté de son site internet, j'aime son approche et j'aime sa mission. Donc si tout va bien, là en ce moment, je devrais déjà avoir au bout du fil celui qui a fondé Boucle d'oreille, qui se présente aussi comme un audiolibraire, Olivier Carpentier. Bonjour Olivier.
Bonjour, bonjour Clotilde.
Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire encore pour le livre audio? Est-ce que c'est pareil chez vous?
Oui, je suis d'accord surtout. Il reste beaucoup de travail. Et je suis d'accord aussi avec cette idée de l'enfant qui a besoin, même quand il est devenu grand, qu'on continue à lui raconter des histoires.
C'est vrai, hein, c'est exactement ça. Racontez-nous, Olivier Carpentier, comment, parce que vous êtes le fondateur de Boucle d'oreille, ça a combien d'années ça déjà, Boucle d'oreille?
Alors, Boucle d'oreille en tant que site internet, ça a un peu plus de 10 ans.
Oui.
Et en tant que librairie de livres audio, ça a 6 ans.
6 ans.
Voilà, 2013.
Bon, et ouais, qu'est-ce qui vous a vous donné? Est-ce que vous étiez libraire avant? J'imagine que vous êtes un littéraire, vous aimez les livres, mais comment ça vous est venu à un moment donné de créer Boucle d'oreille?
Alors, comment ça m'est venu? Donc effectivement, je suis un littéraire. J'ai toujours eu envie d'inventer mon propre métier, peut-être par désobéissance ou autre, mais il fallait que ça soit dans un secteur où je me sente concerné. Donc voilà, j'ai fait des études d'histoire, je m'intéresse aux sciences humaines. Mon métier, quand j'étais jeune professionnel, c'était la création sonore dans le théâtre, dans le cinéma d'animation. Voilà, et mon gagne-pain, puisque mes deux passions ne ramenaient rien du tout, c'était de faire des sites internet. Voilà, c'était de coder en imposteur et en autodidacte, de coder des sites internet. Et donc, Boucle d'oreille, c'est venu naturellement, puisque bah, finalement, il fallait que je réunisse les trois. Les savoirs, le web et le son. Voilà. Mais c'est plutôt un geste militant, en fait, oui, parce qu'en fait, je voulais qu'on parle du livre audio. Je voulais qu'on parle du livre audio à l'époque où on en parlait soit très peu, soit très mal.
Ah oui.
Lorsque j'ai fait cette découverte du livre audio, c'était grâce aux bibliothèques. Voilà, par hasard, dans une bibliothèque, on emprunte un CD, on se jette là-dedans et c'est une découverte esthétique totale.
Une révélation, sûrement aussi.
Une révélation, voilà, vraiment une révélation. Et la révélation est surtout à cause de ce que ça permettait d'accéder à des niveaux de langue qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui, en passant par cette clé du plaisir, en fait, et du travail des voix. Je m'explique un petit peu. Les Zola, les livres du 19e siècle, voire 18e siècle, j'ai eu la chance de pouvoir y accéder au collège, comme tout le monde. Mais c'est difficile parce que c'est une langue c'est une langue qui est plus la nôtre.
Exactement, non, c'est sûr.
Lorsqu'on écoute quelqu'un qui a fait ce travail de préparer le texte, de l'aérer, de détacher les personnages, tout d'un coup tout s'éclaire, ça devient extraordinaire. Voilà. Ensuite, il y a chez moi peut-être un côté un peu anticonformiste qui fait que j'aime bien le côté low-tech du livre audio. C'est-à-dire que c'est juste une personne qui est devant un micro et qui lit quelque chose. C'est-à-dire que on se met volontairement à l'écart de la surenchère qui est celle de l'audiovisuel, qui va toujours vers plus d'effets, plus de sensationnel, plus de moyens, plus de techniques, plus de retouches, plus de voilà.
Là, on est pur, hein. C'est comme si c'est vraiment comme une maison dont on chasse tout le superflu et il ne reste que l'essentiel finalement, quoi.
Voilà. Et puis l'exercice de l'enregistrement d'un livre audio me fascine. Un comédien qui s'enferme comme ça, c'est Denis Podalydès qui a bien raconté ça dans son livre Voix Off. Cette façon de s'isoler dans sa cabane pour faire face à un texte et s'y projeter totalement, voilà, c'est quelque chose qui me plaît et qui me paraît vraiment résonner avec l'aspiration profonde de certains, avec un certain minimalisme, l'envie de se plonger dans la spiritualité, dans tout ça, enfin voilà. Donc, le livre audio, grosse découverte, gros choc esthétique, et ensuite, la prise en compte, la prise de conscience qu'en fait, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas, ou alors qu'ils jugent mal. Vous avez tous en tête l'idée des préjugés qu'on a sur le livre audio. Ah mais c'est pour les enfants. Non merci, je sais lire. Ou non, c'est pour les aveugles.
Ouais, c'est ça.
Ou encore ça y est, encore du nivellement par le bas, encore moins d'efforts à demander parce que finalement tout vient tout cuit et on a qu'à mettre à lancer la lecture et n'a même plus besoin de faire l'effort de lire. Donc tout plein d'idées comme ça qui s'empilent. Et voilà. Et enfin, le tout dernier argument, le contre-argument qui m'a motivé, c'est cette idée que quand je fais lire un texte à quelqu'un, il peut très fréquemment me répondre « Je m'ennuie, ça m'emmerde. Je décroche. » Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a plu le plus, c'est que le livre audio ne fait pas l'unanimité, c'est-à-dire que c'est comme un numéro d'équilibriste, le comédien va emporter notre attention ou on va passer complètement à côté.
Ouais.
Il y a quelque chose de magique. Quand je dis le comédien, faut pas juger mal pour ça, c'est le comédien ou la comédienne, les voix, mais voilà, il y a quelque chose de magique là-dessus, c'est-à-dire que une oreille va réagir différemment d'une autre. Il y a des auditifs, il y a des visuels, ça plaît pas à tout le monde, mais lorsque ça plaît, lorsque vous êtes pris dedans, là, c'est magique. Vous êtes accroché.
Dieu que vous en parlez bien. Non mais ça me fait plaisir de voir parce que le livre audio j'en mange, les gens le savent, c'est pas pour rien si je réalise et si j'anime une émission sur le livre audio, j'en lis moi-même aussi, j'ai lu des séries, j'ai lu j'ai même lu des œuvres à caractère un peu sexuel, un peu érotique, en tout cas j'ai même fait ça, et c'est tellement ça, effectivement l'idée de s'enfermer, puis l'idée de parvenir à rejoindre une personne, moi, comme je dis toujours d'ailleurs aux gens, aux lecteurs, qui ne sont pas forcément des lecteurs habitués à le faire, qui sont des auteurs, souvent, qui viennent lire leurs livres. Parlez à une personne. Si vous parlez à une personne, vous parlez à un million de personnes. C'est,
oui, il y a
c'est,
une adresse. Il y a quelque chose.
Il y a une adresse. Alors, dès l'instant, puis je leur dis, n'oubliez pas que vous vous adressez aussi à des oreilles. Autrement dit, la plupart du temps à un casque. Vous ne pouvez pas projeter votre voix comme si vous faisiez une conférence, par exemple. En tout cas, c'est toutes les nuances. Bon, on va arrêter là-dessus parce qu'entre vous et moi, je pense
c'est cette histoire d'intimité.
Mais oui, c'est ça.
On susurre au micro, parfois même on va se prendre un pas de recul pour hurler, déclamer, c'est possible aussi, mais on arrive au plus proche, au creux de l'oreille. Quoi.
Voilà. Ouais, exactement. J'ai remarqué quelque chose, on va commencer à parler de votre site et de ce qui fait que vous êtes différent. Alors là, j'ai plein de questions pour vous. D'abord, et là je vous en remercie en tant que lectrice, vous nous appelez, nous lecteurs, les interprètes. J'adore ça. Oui, parce que partout, nous sommes des narrateurs, nous sommes des lecteurs, puis en plus, les gens ont tellement peur qu'on interprète de trop. Ah oui, mais faut pas trop interpréter parce que sinon, ça va... Non, n'ayons pas peur de ce mot-là. Merci, Monsieur Carpentier, de l'utiliser.
Pourtant, moi-même, je me méfie beaucoup de la narration, enfin, de l'interprétation. Mais en fait, c'est le mot qui me semblait le plus prompt à rendre hommage quand même au travail, tout simplement, au travail qui est nécessaire pour enregistrer un livre, parce que il faut maintenir son attention de lecteur, il faut se plonger dans le texte, il faut faire attention à 1000 paramètres. C'est pas simplement quelque chose de passif comme ouvrir le livre, exactement, se lancer dans la lecture et attendre que ça passe. Voilà, et donc bon. c'est un boulot et c'est un métier quoi.
Ah mais c'est absolument, absolument. Bon, pourquoi, avant qu'on aille entendre un premier extrait que vous allez nous présenter, pourquoi les gens qui achètent des livres audio devraient-ils aller chez vous plutôt que chez d'autres? En quoi êtes-vous différent?
Allez, alors
c'est parti.
D'oreille, c'est un site de téléchargement de livres audio.
Oui.
Voilà, notre idée c'est de rendre le plus simple possible l'adoption du livre audio à travers le web, et si possible en gardant un lien avec la librairie, avec le concept de librairie et la façon de faire des libraires. Donc on essaye simplement
qui est
de
quoi oui c'est ça cette façon oui c'est quoi cette façon
on va respecter
faire.
Les fondamentaux de la chaîne du livre qui sont déjà de respecter les gens qui ont travaillé sur les œuvres, notamment les éditeurs. Les plateformes multinationales ont tendance à effacer les éditeurs pour finalement que toutes les œuvres se valent
et même le narrateur. Donc, parfois
tout à fait, on met tout de côté, voilà. Là, tout ne se vaut pas. Il y a le travail des éditeurs, il y a des lignes éditoriales, etc. Et ça, en fait, on va donner un maximum de documentation là-dessus. Ça, c'est le travail de fourmi, de documenter les choses. Ces infos, on les reçoit, mais il faut juste les retraiter, etc. Donc, en gros, une richesse d'informations. Ensuite, il y a l'idée que on ne veut pas basculer sur le système de l'abonnement, des engagements, etc. Donc, contre vents et marées, parce que c'est vraiment très dur de résister, eh bien, il n'y a pas d'engagement sur Boucle d'oreille, il n'y a pas d'abonnement. C'est comme chez votre libraire de quartier, vous rentrez
et vous prenez
dans la librairie et vous ne prenez pas de livre et c'est tout, c'est pas grave.
Ok,
c'est comme
d'accord.
Ça. Voilà, mais voilà, donc les prix sont ceux qui sont fixé par les éditeurs, ça aussi c'est un fondamental de la chaîne du livre. On respecte les prix fixés par les éditeurs, etc. Et ensuite, dès qu'on a dit tout ça, il y a le respect du travail audio qui passe par la non-dégradation du signal audio. Ça, c'est un truc qui est très important pour nous. C'est-à-dire que c'est la plateforme où on va trouver un signal audio le moins dégradé possible, la plus haute qualité. Pourquoi est-ce que c'est important? On pourrait très bien dire, bah oui, mais moi, la haute définition, j'en veux bien pour la musique, pour entendre tous les détails orchestraux, etc., machin, mais pour la voix, juste une voix, c'est pas important d'avoir de la haute qualité. Et je réponds que si, c'est important pour une notion de fatigue auditive.
Absolument.
Parce que lorsque vous avez un signal qui est compressé, que les choses prennent moins de place dans les tuyaux, eh bien, il y a quand même des trous. À une fréquence certes très, très importante, mais il y a des trous et c'est votre cerveau qui recompose.
Ouais.
Et au bout de 10, 20, 30 heures d'écoute, de recomposition, votre cerveau est vraiment très fatigué.
Absolument.
La dégradation du signal, ça veut dire, c'est donc sur une histoire de taux d'échantillonnage, et c'est également c'est également une dégradation qui se place parfois sur le champ de la dynamique. Vous avez des plateformes qui vont compresser le son pour que les très petits moments de voix et les très forts moments de voix se rapprochent.
Eh oui.
Donc c'est l'écrêtage. de façon à ce que vous ayez une facilité d'écoute en voiture, par exemple. Mais ça, c'est encore une fois dégrader le travail qui a
absolument
été fait, et nous, on ne veut pas le faire.
Ah, donc, je suis tellement d'accord.
Le travail audio. C'est un peu un truc de puriste. Donc, en gros, voilà, on est un peu dans un truc.
Oui.
On va s'adresser à l'intellect.
Vous êtes dans la haute fidélité, comme on l'appelait à l'époque pour la musique.
c'est vrai. Voilà, on essaye de faire... voilà. Et j'ajoute un tout dernier point, qui est celui, on va dire, de l'éthique e-commerce, puisque c'est un peu le corollaire du fait de ne pas faire d'abonnement, etc. C'est de considérer que lorsque vous faites un achat sur Boucle d'Oreille, on respecte le prix d'éditeur, donc c'est cher, faut bien se le dire, c'est cher. Mais vous n'avez pas simplement un droit d'usage, un droit d'écoute, vous avez vraiment un fichier qui est le vôtre. C'est-à-dire que ce fichier, en toute responsabilité, en toute confiance, vous pouvez en bénéficier et l'utiliser comme bon vous semble. Vous pouvez le mettre sur une clé USB pour le donner à un parent, vous pouvez le graver sur CD, vous pouvez l'utiliser dans votre ordinateur, vous pouvez l'archiver dans votre propre audiothèque, et si jamais vous avez besoin de retélécharger ce fichier audio que vous avez acheté, eh bien ce retéléchargement est garanti à vie. C'est-à-dire que tant que Boucle d'Oreille vivra, vous pourrez revenir vous connecter à votre audiothèque et retélécharger le fichier, le chapitre qui vous manque.
Comment ils prennent ça, les auteurs, que les gens puissent télécharger, se passer un document, comment on fait à ce moment-là pour la répartition des droits?
Je pense que si jamais aujourd'hui il fallait signer le contrat avec Boucle d'Oreille, il y aurait peut-être plus de réticence qu'à l'époque où ça a été fait en 2013 ou 2014, où on débarquait de nulle part et puis finalement la transition dématérialisée n'était pas faite. On était encore principalement sur du CD. Donc à l'époque, on a pu proposer des choses qui seraient moins faciles à faire passer aujourd'hui. Mais il faut aussi dire qu'il y a quand même, du côté des ayants droit, des éditeurs, des fournisseurs, il y a quand même de l'intelligence aussi. Ils savent très bien que dès lors qu'une œuvre peut être entendue, elle peut être copiée. Et on peut même aller jusqu'à dire que si on veut vendre 10 livres audio, il faut accepter que un soit piraté.
Exactement.
Ça fait partie du jeu. Et les pirates iront toujours plus vite. Donc il y a tous les services juridiques automatisés ou non qui servent à les poursuivre. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens d'aller mettre ça sur YouTube.
Mais non, puis bon. Même, comme je le dis toujours, quand on était jeune, on plantait un micro des vieux magnétophones que les mômes ne savent même pas ce que c'est. Et puis on mettait ça sur la radio et puis on se copiait les chansons. Hein. C'est vrai pareil. Écoutez, mon ami Olivier, je pense que vous et moi, bavards comme on est sur le sujet, on pourrait faire un 3 heures ensemble. Mais non, pas du tout, parce que tout ce que vous dites est intéressant et nous permet de mieux connaître Boucle d'Oreille, et c'est la raison fondamentale de cette entrevue. Mais je voudrais aussi qu'on entende des extraits de livres qui sont proposés chez vous. Je vous ai donc demandé, par exemple, quel serait votre dernier coup de cœur, et vous m'avez répondu, merci tellement, Les Gratitudes de Delphine de Vigan. Pourquoi ? En quelques mots, Olivier, parce que j'ai hâte qu'on l'entende.
Je vais aller très vite. Promis, je vais très vite. Bien, tout simplement parce que j'ai remarqué que ce titre plaisait à nos audiolecteurs. Donc moi, je ne serais pas allé vers cet auteur et je ne serais pas allé vers ce texte tout seul. Mais là, je suis intrigué, voilà, parce que je vois qu'on en vend sur Boucle d'Oreille. Et lorsque je l'ai écouté, eh bien, ça a résonné avec mon histoire personnelle, celle de ma grand-mère, qui est en maison de retraite. Et donc, voilà, je vous laisse...
D'accord. Alors, on va l'écouter. Mais là, je suis en train d'essayer de retrouver quelle est la lectrice, quelle est l'interprète, pardon.
Il y en a plusieurs.
Voilà. Julie Pouillon. Et je pense même que dans mon extrait, il se présente. Alors, c'est peut-être pour ça que je ne l'avais pas écrit sur ma feuille de route. On écoute l'extrait, mon ami.
Mishka vient de prendre possession de sa nouvelle chambre. Le mobilier est simple. Un lit, une table de chevet, une chaise, un bureau, un placard. Formica, plastique, bois clair. Couleur douce, pastel. Du standard de bonne qualité. Elle est assise sur l'unique fauteuil tandis que je termine de ranger ses affaires. Elle observe autour d'elle les murs propres, nus, les rideaux à fleurs. Je vois bien sa mine renfrognée. Elle est d'humeur maussade. T'inquiète pas, tu vas pouvoir décorer. On va accrocher quelques images au mur et puis on mettra une jolie plante verte sur la table.
Pourquoi faire ?
Pour que ce soit un peu plus chaleureux.
On ne va quand même pas faire croire que c'est chez moi.
Pas du tout, Mishk. mais ce n'est pas une raison pour que ce soit moche. Tu vas rester ici un petit moment quand même.
Oui, bah ça, on verra.
J'ignore si elle fait allusion au choix de l'établissement ou à un départ plus définitif. Elle a son air des mauvais jours. Soudain, son regard s'illumine.
Tu as trouvé ma bouteille dans le sac ?
Quelle bouteille ?
Mon whisky.
Oui, oui, elle est là. Mais c'est peut-être pas très raisonnable, Mishk, avec les chutes et tout. Tu es sûr que tu veux la garder ?
Oh, écoute, je bois un petit dé à moudre en fin de journée dans un minuscule verre, ça ne va pas me tuer. Tu me la mets dans le hangar, d'accord ? Pas trop haut, ni trop bas. Derrière les vêtements, s'il te plaît, ce sera très bien.
Tu es sûr que c'est autorisé ?
Pas tellement, mais je m'en tiche. Ce n'est pas l'armée non plus.
Oh, c'est tellement génial. Et à plusieurs voix, ce qui est quand même assez rare. Donc, ouais. Alors, je les cite, Julie Pouillon, Caroline Claus, Jean-Baptiste Artigas et Clémentine Yelnik. Merveilleux, merveilleux. Il y a quand même un petit peu d'interprétation, mais juste ce qu'il faut. C'est absolument délicieux.
Juste ce qu'il faut, ouais.
Alors, une voix que vous aimez particulièrement et que je ne connaissais pas d'ailleurs, c'est celle d'Éric Herson ou Herson Macarel. Et en plus, il lit du Philippe Kerr. Je l'envie en tant qu'interprète moi-même. J'aurais toujours voulu lire du Philippe Kerr. Alors, pourquoi cette voix plus qu'une autre ? Et parlez-nous de la maison d'édition de livres audio qui vous a permis de découvrir cette voix-là.
Oui, alors, ce comédien, en fait, je l'ai découvert grâce à un CD qui m'avait été offert par un partenaire éditeur, Sixthread,
oui.
Donc un éditeur parisien avec qui on travaille depuis plusieurs années maintenant, et Sixthread fait partie des pionniers du livre audio. C'est une maison d'édition qui était adossée à une librairie qui était dans le 15e arrondissement, qui malheureusement a dû fermer, librairie Livraphone. Et Livraphone et Sixthread, voilà, donc Arnaud Bâton pour ne pas le citer,
oui,
font partie de ceux qui ont vraiment bagarré bec et ongles pour que les livres audio traversent les années de vache maigre, jusqu'à la période d'aujourd'hui où enfin, ça y est, ça devient un peu sexy. Il y a une démarche militante que j'aime beaucoup chez Arnaud Bâton, et il y a ce travail avec le comédien Éric Herson-Macarel que j'ai découvert grâce à ce cadeau. Et
qu'on va entendre, mon ami, parce que sinon, ce serait tellement dommage qu'on ne l'entende pas. Merci, c'est Olivier. Bien, bien. Allez, on l'écoute.
Janvier 1957. Cela pourrait être la plus mauvaise histoire jamais racontée si tout ne s'était pas déroulé exactement tel que je le décris dans les moindres détails. C'est toujours comme ça, avec la vraie vie. Les faits semblent improbables jusqu'au moment où ils se produisent. Mon expérience d'inspecteur de police et mon histoire personnelle confirment cette observation. Il n'y a rien de plausible dans ma vie. Mais je devine qu'il en va de même pour chacun de nous. Le recueil des événements qui font ce que nous sommes semble exagéré ou fictif jusqu'au jour où nous nous retrouvons en train d'évoluer sur ces pages tachées et cornées. Les Grecs ont un mot pour cela, évidemment. Mythologie. La mythologie explique tout. Les phénomènes naturels, mais aussi ce qui se passe quand vous allez en enfer après votre mort ou que vous avez la mauvaise idée de voler une boîte d'allumettes à Zeus. D'ailleurs, il se trouve que les Grecs sont très impliqués dans cette histoire. Comme dans toutes les histoires, peut-être, si on y réfléchit. Après tout, c'est un Grec nommé Homère qui a inventé le récit moderne alors qu'il perdait la vue, en supposant qu'il ait existé.
Le grain de voix absolument sublime d'Éric Herson-Macarel dans cet extrait de l'offrande grecque de Philippe Kerr. Quel grain de voix. Nous, moi, je suis complètement en amour avec ce grain-là. Avant qu'on se quitte, il nous reste plus que 3 minutes. Ça va passer vraiment très vite. L'histoire des gens. J'ai tellement aimé l'extrait que je vais vous diffuser là. Et c'est vous qui m'avez mis la puce à l'oreille, qui m'avez dit, écoutez ça, c'est vraiment très bien fait. C'est chez qui, ça, d'ailleurs, l'histoire des gens ? Qui a fait ça ?
C'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse.
C'est ça, ok.
Et c'est un gros coup de cœur de papa, voilà, parce que j'écoute ça avec mes enfants et on rigole dans la voiture.
Allez, on écoute.
On est 6 garçons, 6 frères avec les mêmes oreilles décollées et le même épi au sommet du crâne. Vivre dans une famille nombreuse, c'est un peu comme être un simple exemplaire dans une collection de figurines publicitaires. Impossible de passer inaperçu quand on sort le dimanche. surtout habillés tous pareils, avec nos blazers anglais, nos culottes de flanelle et les petites cravates que nous offre grand-maman à chaque Noël. Les gens qu'on croise nous comptent et nous recomptent mentalement en faisant les yeux ronds, comme s'ils étaient victimes d'une illusion d'optique. « Ils sont à vous, tous ces garçons ?»« Oui, pourquoi ?» demande maman. « Une bien belle famille !» s'enthousiasment les gens, du ton dont ils parleraient d'un tremblement de terre ou d'une catastrophe ferroviaire. « Mais ces garçons, tout de même, ça ne doit pas être facile tous les jours. »« Oh !» répond maman avec un petit sourire. « Il suffit d'un peu d'organisation, voilà tout. » C'est vrai que maman est très organisée. On a tous 2 ans d'écart, ce qui est commode pour se refiler nos vieux vêtements, et on est tous prénommés Jean quelque chose. Comme ça, papa et maman ne peuvent pas se tromper quand ils nous appellent pour mettre la table ou ranger les pièces de mécano répandues sur le tapis du salon. À chaque rentrée des classes, papa nous photographie 2 par 2, la main sur la porte, quand on part à l'école. On a nos gros cartables sur le dos et l'air réjoui d'une cordée d'alpinistes qui s'apprête à escalader l'Himalaya sans oxygène en pleine tempête de neige.
J'adore ça. C'est vraiment très bien fait. Le texte est charmant, c'est bien lu, c'est superbe. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que je m'adresse à Olivier Carpentier. Voilà, il nous reste à peu près 1 minute 30, Olivier. Je voudrais vous dire que quand j'ai cherché une émission, un titre pour mon émission qui s'appelle maintenant « Des livres pleins les oreilles », il m'est venu à l'esprit « bouc d'oreille ». Yeah, j'ai dit « c'est génial ». Ça, évidemment, je suis vite allé sur Google et pan, sur qui je tombe sur vous. Je vous en ai voulu. Je vous en ai voulu. Oui, non, c'est un très, très beau flash. « Bouc d'oreille », mes amis. « Bouc » comme un livre en anglais, « d'oreille », comme des livres pleins les oreilles. J'ai invité aujourd'hui Monsieur Carpentier à nous en parler parce que c'est une plateforme de livres audio pas comme les autres et vous avez été d'une clarté, puis je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre passion du livre audio. Comme je le disais au début, on a encore beaucoup de travail à faire, mais avec des gens comme vous et nous, on va y arriver. Olivier.
J'espère. Merci beaucoup.
Mais je vous
merci
en prie,
de
rien, et puis je vais recevoir votre ami Yamon là, en janvier ou février.
D'accord.
Voilà. Allez, au revoir. Merci beaucoup.
Génial.
Et continuez votre beau travail. Vraiment, vraiment, vraiment.
Et pareil.
Allez, au plaisir. Salut, bye.
À bientôt. Au revoir.
Des livres pleins les oreilles, la suite. Toujours Clotilde Essaye en votre compagnie et puis toujours l'émission Des livres pleins les oreilles qui se poursuit, émission disponible en balado ou podcast comme vous préférez, disponible également via Canal M et via la télévision ou disponible aussi via CKVL. J'embrasse d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent religieusement à chaque semaine. Au moment d'enregistrer cette émission, en fait au moment de la préparer, on ne savait toujours pas s'il y aurait célébration de Noël ou pas. Et juste avant, mais vraiment juste avant d'entrer dans le studio, Monsieur Legault, apparemment, est en onde en ce moment et il vient de nous apprendre qu'il n'y aurait pas de rassemblement du tout, ni à Noël, ni pour le 31. Et je me dis, oh mon Dieu, qu'il y a des gens qui vont être tout seuls. Et en tout cas, je pense à... Moi, je me sens un petit peu comme une privilégiée, pas parce que j'ai du monde autour de moi, j'ai personne, mais parce que je me sens bien là-dedans, c'est pas un souci. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui ça va être vraiment terrible. Je pense à des gens peut-être âgés, dont c'est peut-être le dernier Noël, qui se disent « est-ce que j'aurai la chance d'en avoir un autre ?» Je pense aux grands-parents qui habitent parfois loin de leurs petits-enfants et pour qui Noël est l'occasion de se réunir. Je pense en tout cas, je pense aux gens malades aussi, je pense « ah !» Et puis je pense aussi, permettez-moi d'avoir une pensée pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, parce que finalement, je pense que c'est pour eux aujourd'hui qu'il faut qu'on soit solidaires, c'est pour eux aujourd'hui qu'il faut que certains imbéciles arrêtent de faire des conneries je vais dire le mot. On voit encore trop de gens qui s'en foutent, qui mettent pas leur masque, qui se ruent dans les boutiques, qui vous bousculent, qui vous postillonnent dessus, qui vous... Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour comprendre que si on tombe malade, évidemment, individuellement, c'est pas un drame, mais collectivement, c'en est un, et surtout pour les hôpitaux qui nous accueillent, quoi. C'est terrible, et ces gens-là, en premier, n'auront pas, sûrement pas, l'esprit à faire la fête de toute manière, quand bien même on aurait pu faire des rassemblements. Les gens qui bossent en ce moment parce que on n'est pas prudent, eh bien, de toute manière, il n'y aurait pas eu pour eux de célébration. Pourquoi je vous dis tout ça? J'en sais rien, mais je ne sais pas. Certainement, il fallait que ça sorte. Alors, faute de sapin autour duquel se réunir, on peut peut-être penser à des belles soirées à se faire en famille. Et pourquoi pas, tiens, écouter des livres audio. C'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de vous partager, notamment ce qu'Audiolib nous propose d'écouter pendant les fêtes avec ou sans les enfants. Et puis, je voulais aussi avoir une pensée pour les personnes dont la vue est déficiente et qui restent fidèles aux organismes qui leur procurent des livres audio gratuitement. C'est le cas du CAEB notamment, représenté régulièrement dans cette émission par Faline Bobier, qui a également quelques titres à vous offrir. Bon, célébration ou pas? Non, ce ne sera pas de célébration. Peux-tu essayer de sourire un petit peu? Allez, on va essayer.
Québécois, avec ses potelins, sans le partout. Le Père Noël, c'est un Québécois, son sac c'est un peu belle, rempli de joie. Un train pour Alain, un foulard pour Edouard, une poupée pour Mireille, des patins pour petit Corbeil, en way. Ouais, bon ben, je pense que j'ai entendu tout ce qu'il m'aura demandé. J'oublie le petit damier. Tiens-moi le toilet. Dans ton bar en plus de caldé. OK? Le papa, le pipi, le popo, le pipu, le pépère de l'Ouest, un Québécois. Avec ses bas de laine, son alpaca. Le père de l'Ouest, un Québécois. Son sac de bébelle, rempli de joie. Une couchette pour Annette, des skis pour Henri. Un chapeau pour Mario, des mitaines pour Adrien, allez voir. Ouais, mais bon, ben, là, c'est là que ma lune est complètement terminée. J'espère que tout le monde est content, là, hein, gang de pierre chalet. L'âme de Noël est bien garnie. Fais une mine de feu, moi, ça me dérange pas, passer par la porte en arrière. Le papa, le pipi, le popo, le pipu, le pépère Noël, c'est un Québécois. Avec ses bas de laine. Au parcours. Le Père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bébelle, rempli de joie. Un train pour Alain, un foulard pour Edouard. Une poupée pour Mireille, des patins pour petit Corbeil. Ouais, ben joyeux Noël tout le monde.
Ouais, joyeux Noël tout le monde quand même. Alors oui, des livres audio, pourquoi pas? On offre un lien. On offre un lien, c'est littéralement ça. Donc ça peut se faire par toutes les façons possibles et inimaginables. On n'est pas obligé d'être en présence pour le faire. Alors, voici quelques suggestions de Noël qui nous sont proposées par la maison Audiolib, hein, qui est l'une des plus grandes boîtes de production de livres audio en France. J'ai d'abord pensé aux jeunes, aux petits. Avec Histoire de princesse de Walt Disney, ça vient de sortir le 20 novembre dernier. C'est un livre audio qui est lu par Marie-Ève Dufresne, qui nous permet de retrouver les plus belles histoires des princesses de l'univers Disney. Ça va de Cendrillon à Rebelle, ces contes de fées et aventures inoubliables qui ont séduit les enfants de toutes les générations. Hein, Blanche-Neige, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Pocahontas... La Belle au bois dormant, La princesse et la grenouille, Rebelle et Mulan. Et puis Cendrillon.
« Histoire de princesse. Les 10 plus belles histoires des princesses Disney. Lue par Marie-Ève Dufresne. Cendrillon. Il était une fois une belle jeune fille, au cœur pur et généreux, et dont la voix cristalline charmait quiconque l'écoutait chanter. Attentive à tous, petits et grands, elle était un modèle de bonté et de générosité. Un large sourire illuminait son doux visage. Pourtant, la dure vie qu'elle menait n'était guère enviable. Orpheline, elle vivait avec sa belle-mère et ses deux belles-sœurs, des femmes affreuses et égoïstes. De l'aube jusqu'au coucher du soleil, elle travaillait sans relâche dans la grande demeure, s'efforçant de satisfaire les moindres désirs de chacune. Elle accomplissait avec cœur les tâches les plus ingrates, nettoyant l'auge des cochons ou vidant les cendres de la cheminée. C'est la raison pour laquelle Javotte et Anastasie l'avaient surnommée Cendrillon.
Eh oui, et on connaît la suite, mais on se régale toujours à l'entendre. On change complètement de style avec une bio, celle de Woody Allen, soit dit en passant, qui est, nous dit-on dans le résumé, le récit exhaustif de la vie de Woody Allen, à la fois personnelle et professionnelle, qui revient sur sa carrière au cinéma, à la télévision, sur la scène des clubs, ainsi que sur son travail d'écrivain. Woody Allen qui parle également de ses relations avec sa famille, ses amis et les amours de sa vie. Vous savez, c'est un livre qui a bien failli ne jamais voir le jour, d'abord de la part de l'éditeur américain et également chez Stock en France, où il est sorti sur papier d'abord, puis en audio ensuite chez Audiolib. Alors pourquoi est-ce que ça a failli pas sortir? Eh bien, vous l'imaginez, à cause de ces histoires que nous savons, mais qu'on ignore parfois par amour pour l'artiste ou simplement parce que, comme le disait Voltaire, nous aimons bien cultiver notre jardin, ce qui se passe ailleurs, on s'en fout. Bref, il y en a des qui ne passeront pas outre la suspicion et il y en a d'autres, en revanche, qui par respect pour ce créateur auront peut-être envie de l'entendre parler de sa carrière et de ça, à son point de vue, à lui. Vous en ferez ce que vous voulez. En attendant, voici un extrait du livre audio lu par Jean-Luc Kayser.
Maman avait 5 sœurs, aux physiques plus ingrats les unes que les autres, et elle était sans doute la plus laide de la portée. Disons les choses comme ça, la théorie freudienne du complexe d'Édipe, selon laquelle nous tous, les hommes, voulons inconsciemment tuer notre père et épouser notre mère, tombe sur un os quand il s'agit de la mienne. C'est triste à dire, mais même si ma mère était plus responsable, plus mûre, plus respectable et un bien meilleur parent que mon coureur de père à la morale douteuse, je le préférais, lui. Tout le monde le préférait. Sans doute parce que c'était un type tendre, plus chaleureux et plus démonstratif, alors qu'elle ne faisait pas de quartier. C'était elle qui empêchait la famille de couler, grâce à son emploi de comptable chez un fleuriste. Elle tenait la maison, faisait la cuisine, réglait les factures, et veillait à ce qu'il y ait toujours un bout de fromage frais dans les pièges à souris, pendant que mon père détachait de sa liasse quelques billets de $20, alors qu'il ne pouvait pas se le permettre, et les fourrait dans ma poche pendant mon sommeil.
Alors, on a évoqué la bio à l'instant de Woody Allen, qui est maintenant disponible en livre audio. On a évoqué les princesses pour les enfants. Tiens, pourquoi pas un bon Stephen King? Il n'est pas récent. Celui-ci était sorti en 2007, mais d'après Stephen King lui-même, c'est son chef-d'œuvre. Remarquez peut-être qu'il dit ça à chaque bouquin qui sort. Ça, c'est possible. Mais ça, c'est l'histoire de Lizzie. Ça s'écrit L-I-S-E-Y, mais on dit bien Lizzie dans le livre audio. Pendant 25 ans, Lizzie a partagé les secrets et les angoisses de son mari. Qui était son mari? C'était un romancier célèbre du nom de Scott London. Et c'était un homme extrêmement complexe et tourmenté. Et il avait tenté, cet homme-là, plusieurs fois de lui ouvrir la porte d'un lieu. Un lieu à la fois terrifiant et salvateur où il allait puiser son inspiration. Et lorsqu'il meurt, la fameuse Lizzie est complètement désemparée et elle s'immerge dans les papiers laissés par son défunt mari et elle s'enfonce de plus en plus loin dans les ténèbres qu'il fréquentait. C'est lu par Marie Bouvier, en voici un extrait.
L'intérêt d'Amanda sembla se focaliser sur les monceaux impressionnants de publications qui couraient sur toute la longueur du mur sud du bureau. Elle longea dans un sens, puis dans l'autre, cette accumulation serpentine, sans rien dire ou presque, mais en prenant fréquemment des notes dans un petit carnet qu'elle gardait sous la main. Ce que ne dit pas Lissy fut « Tu cherches quoi ?» ni « Qu'est-ce que tu écris ?» Comme Scott l'avait observé en maintes occasions, Lissy possédait ce qui est certainement un des talents humains les plus rares. Elle s'occupait de ses oignons et ne s'en faisait pas trop si les autres ne s'occupaient pas exclusivement des leurs. Du moins, tant qu'ils ne concoctaient pas des explosifs en vue de les balancer sur quelqu'un, et dans le cas d'Amanda, les explosifs n'étaient jamais exclus. Amanda était le genre de femme qui ne peut s'empêcher de sonder, le genre de femme qui ne manquerait pas d'ouvrir la bouche tôt ou tard.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère, dans mon jardin.
Oh, fais du bien, c'est bon. Hein, Faline ?
Bonjour.
Bonjour. On l'aime-tu, cette chanson-là, ou on l'aime pas ?
Beaucoup.
Hein, on va se faire croire que c'est parce que il fait beau et chaud et qu'on va avoir un joli Noël et que... Oh, c'est triste hein, d'apprendre... Oh, mon Dieu. Hein, oui, ben, ouais, j'en ai parlé.
C'est... Peut-être que les livres peuvent nous aider à passer le temps.
Oui, c'est ce que j'ai dit aussi tantôt, espérons ça. Vous en avez quelques-uns à nous proposer, Faline. Je rappelle que vous travaillez au CAEB et que vous êtes encore très, très proche de ces gens qui utilisent le livre audio parce qu'il présente une déficience visuelle. Bon, une fois que les choses sont rappelées, parlons de bouquins audio. Maison Fauve par Éléonore Goldberg. De quoi il s'agit?
Je trouve que c'est très intéressant. Goldberg, apparemment, avant, c'est quelqu'un qui était plutôt réalisatrice
oui.
pardon, des films d'animation. Elle a publié aussi de la bande dessinée.
Ah.
Donc, c'est mon premier roman. Et elle dit que comme dans ses films d'animation, elle s'est inspirée d'expériences vécues, sauf qu'elle dit que pour ce roman, elle a aussi inclus des éléments de fiction. Donc, l'histoire ou le livre, c'est vraiment structuré par les endroits où le personnage principal a habité pendant sa vie. Donc, elle revisite dans le livre 6 maisons ou appartements. Je pense que le premier, c'est dans le pays des Loires, je pense, à Kinshasa, au Congo, à Paris, en Normandie, à Orléans et à Montréal. Donc, on va décrire la maison ou l'appartement et elle termine toujours sur un retour sur les souvenirs qu'elle a recueillis pendant qu'elle a vécu dans ces
endroits-là.
Donc, c'est un peu comme j'ai dit, comme elle dit, c'est un mélange de faits réels et de fiction, d'invention.
Alors, on écoute un petit extrait tout de suite. Maison fauve par Eleonore Goldberg.
Parfois, mon appartement me fait l'effet d'une boîte, un cercle géant dans lequel je suis enfermée vivante. Il me vient le désir de bondir par la fenêtre. C'est vrai que le vide me semble très attirant du haut de mes fenêtres. J'ai déjà ressenti cette impression-là, à Orléans, quand j'étais adolescente. Oui, avant d'être ici, je vivais à Paris. Avant Paris, à Orléans, et avant Orléans, entre Paris et la Normandie. Avant tout cela, il y a eu Kinshasa. Et avant Kinshasa, il y a eu les Noëls. Oui, ça en fait des déménagements. C'est difficile de se sentir chez soi quand on déménage souvent. Au fond, le chez-soi se résume à ce que l'on aime et à notre corps. Mon corps est une maison en ruine. Mes parents aimaient les vieilles pierres. Année après année, nous avons habité des lieux que nous avons retapés, puis quittés.
Oui, vraiment très très intéressant. On change de genre complètement. Faline à Arnaldur Riddarason. Ça, là, nous voilà partis pour l'Islande, hein?
Oui, c'est un de mes auteurs préférés.
Ah,
comme
oui?
Vous dites, c'est un écrivain islandais. Mm-hmm. C'est son dernier livre. Il écrit des romans policiers qui sont plutôt noirs, je dirais. C'est peut-être le climat de l'Islande.
D'ailleurs, comme la nuit du titre, parce qu'on n'a pas donné le titre, hein, ce que savait la nuit.
Oui, oui.
Est-ce que c'est ce que savait la nuit noire ou ce que savait la nuit tout court?
J'ai vu les deux. Alors,
d'accord.
Oui. Mais en tout cas... C'est intéressant aussi parce que c'est vraiment, il y a un côté réaliste dans un sens parce que dans le livre, il s'agit un peu des changements climatiques qui ont déjà des répercussions pour nous, dans nos vies, mais aussi dans le livre. Parce que dans le livre, il y a un groupe de touristes allemands qui sont en expédition sur le Langjökull, qui est un glacier en Islande, et ça recule à une vitesse... vertigineuse, c'est à cause justement des changements climatiques. Et donc, ces touristes vont tomber par hasard sur un cadavre qui est en train de sortir, si vous voulez, du glacier ou qui émerge du glacier. Et donc, c'est la découverte, ça va déclencher la reprise d'une enquête, donc vraiment un cold case, comme on dit en anglais, qui a été abandonné plus de 30 ans auparavant. Et le personnage principal dans le livre, ceux qui connaissent l'œuvre d'Ingrid Gredesen, ils vont peut-être connaître Conrad. C'est un policier qui est à la retraite et qui a déjà apparu dans une trilogie, la trilogie des ombres d'Ingrid Gredesen. Donc, c'est un personnage qui est assez complexe, quelqu'un qui a peut-être mal vieilli. Il est un peu aigri, hanté par la mort de sa femme, aussi par cette enquête qu'il n'a pas su résoudre il y a 30 ans auparavant. Mais il va se joindre quand même aux policiers qui reprennent les recherches. Et donc, c'est ça, si vous voulez, l'intrigue du livre.
Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que dans l'extrait que j'ai, il ne s'agit pas de Conrad, mais on va suivre sur le glacier le groupe allemand. Et c'est une femme, une guide hein, qui les précède et dont il sera question dans cet extrait-là de ce que savait la nuit. On écoute.
Okay.
Elle avait suivi une formation de guide quand le tourisme avait commencé à se développer. Elle était alors au chômage depuis 8 mois. Elle avait perdu son appartement pendant la crise, n'étant plus en mesure de payer les traites. Son compagnon était parti vivre en Norvège. Il était maçon et là-bas, le travail ne manquait pas. Il avait juré qu'il ne remettrait jamais les pieds en Islande, ce pays pourri que des imbéciles avaient mis en faillite. Elle avait entendu dire que le tourisme allait se développer. La couronne ne valait plus rien et l'Islande était désormais bon marché pour les étrangers. Elle s'était donc inscrite à cette formation où elle avait appris que les touristes appréciaient l'Islande pour ses paysages, son air pur et son silence. Mais on n'avait jamais évoqué pendant les cours la possibilité de tomber sur un cadavre congelé dans un glacier.
Et voilà, la table est mise, si j'ose dire, avec ce roman aussi islandais. Oui, je sais qu'entre autres, il y est question de cette irruption de volcan dont on se souvient, qui avait noirci le ciel jusqu'ici, hein, jusque de ce côté-ci. Vous vous souvenez de ça? Quand bien même je me souviendrai du nom du volcan, que je ne m'essaierai même pas de le prononcer, mais c'est un événement dont tout le monde se souvient. On va finir par l'affaire Trussardi de Beverly McLaughlin, est-ce que je prononce bien ça?
Oui, je pense que c'est maintenant plus, je ne peux pas le prononcer. McLaughlin, oui, je pense.
Alors, parlez-nous de cela. Il s'agit, bon, je pense, d'un homme d'affaires, hein, accusé de meurtre.
Oui, ça. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, donc, on se retrouve dans le domaine du crime. Ce livre est écrit, ça se passe à Vancouver, en Colombie-Britannique. Et ce qui est intéressant avec l'auteur, Beverly McLaughlin, c'est qu'elle a siégé à la Cour suprême à titre de juge en chef du Canada. Donc, c'est son premier livre, mais elle connaît, c'est évident en lisant le livre qu'elle connaît très bien son domaine. Donc, c'est l'histoire d'une jeune avocate, Jilly Truett, qui va défendre un homme, Vincent Trussardi, qui est accusé du meurtre de sa femme. Et donc, c'est quelqu'un de riche, influent. Et elle va être confrontée à des révélations qui vont changer le cours de l'enquête. Donc, mais moi, je trouvais que c'est un très bon, qu'est-ce qu'on dit, un thriller.
Absolument.
Dans le même genre de Grisham ou quelqu'un comme ça.
Oui, ouais.
C'est son premier livre seulement, donc on peut espérer qu'elle va en écrire d'autres aussi.
C'est prometteur. Ouais. Allez, on écoute un extrait de l'affaire Trussardi.
Que vous faut-il pour obtenir ma libération, ou du moins pour essayer? Des informations personnelles, adresse, revenu, le nom d'une personne pouvant se porter caution, passeport, ce genre de choses, et il faudra peut-être de l'argent pour la caution. Hildegarde, réplique-t-il, Hildegarde Bremner, Tours, TEC. Il récite un numéro de téléphone dont je prends note. Ma secrétaire personnelle, dans l'ancien sens du terme, dépositaire de secrets de famille. « Je vois, rétorquai-je, bien que je ne vois rien du tout. Le juge voudra peut-être une bonne somme pour la caution. » Puis j'ajoute, en songeant à ce que j'ai lu dans les journaux sur la mort de sa femme, « étant donné les circonstances. » Il me regarde sans ciller. « Ce ne sera pas un problème. J'aurai aussi besoin d'une provision. » 10 000 pour commencer, davantage plus tard. Seulement 10 ? Répond-il avec un petit rire. Je suis certain que vous valez beaucoup plus que cela, mademoiselle Trout. Hildegarde s'occupera du paiement.
Oui, il a l'air un peu baveux, le bonhomme, hein?
Oui.
Hein? Infaline. Bon, ben, merci beaucoup pour ces 3 suggestions que je rappelle. L'affaire Trussardi de Beverly McLaughlin, également Ce que savait la nuit ou La nuit noire de Ingrid Hasson, roman islandais. Et puis, au tout début, nous avons parlé de Maison fauve d'Eleonore Goldberg. Merci, Faline. Je vous souhaite malgré tout de passer de joyeuses fêtes et puis j'espère qu'on va se retrouver en 2021.
Oui, et vous aussi. Je viens de commander mon petit arbre bleu artificiel.
ça va être charmant. Allez, ben, il va falloir qu'on se gâte nous-mêmes, hein, de nous à nous.
Oui,
ça va être important. Merci beaucoup, Faline. Merci. Je vous embrasse. Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir.
C'est là-dessus que se referme cette nouvelle édition de l'émission Des livres plein les oreilles, réalisée, animée pour vous par Clotilde Seil, qui voudrait une nouvelle fois remercier très très fort Jean-Sébastien Laliberté, qui est un compagnon de travail vraiment exceptionnel, et puis remercier mes invités Olivier Carpentier, audiolibraire et fondateur de Book d'oreilles, et Faline Bobier également, qui était des nôtres. Je vous souhaite une belle semaine, faites de belles découvertes en livres audio, et retrouvons-nous dès la semaine prochaine. Salut!